vraiment une tête à claque. Et pourtant, ce n'est pas le cas du tout, au contraire. Mais au début, on se dit, mais elle est insupportable, cette gamine. Et vous allez voir que ça n'est pas le cas. Voilà. Bien, alors, on va commencer de façon un peu différente. On va voir le début de Linda Venu-Coulet. Et ensuite, on va voir à côté de Linda Venu-Coulet une interview des deux réalisateurs. Et à partir de ces deux éléments, nous verrons comment aborder le thème de l'héroïne sous un autre biais que celui de Nausicaa. Dans le pré-générique, ou tout au moins dans le générique, qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez une idée? Oui? Le père est mort, effectivement. Il est mort au milieu du repas, tout au moins à la fin du repas, puisqu'il proposait un bicchiere di champagne, donc un verre de champagne. Et donc la petite a mis un certain temps avant de s'en apercevoir, et c'est pour cela qu'elle se met à hurler. Et je vous ai mis les sous-titres, parce que on vous donne des indications non seulement sur les dialogues, puisqu'au début, quand on n'est pas encore entré dans la diégèse, il faut quelques instants d'accoutumance. Or, il se trouve qu'on ne comprend pas tout de suite que le père est d'origine italienne, donc il parle tantôt en français, tantôt en italien. On ne comprend pas tout de suite que, le repas s'est mal terminé, puisque le bruit, en particulier d'ambulance dont il est question, quand on parle des sous-titres, on ne l'entend pas nettement. Moi, je vous avoue que quand j'ai regardé le film, je n'ai pas entendu le bruit d'ambulance. Donc moi, j'ai voulu vous mettre tous ces éléments, destinés aux malentendants, pour que tout nous soit bien précisé. Alors ceci, d'ailleurs, est important pour signaler aux élèves que parfois, il y a des éléments visuels ou sonores qui sont bel et bien là dans la séquence que l'on étudie, mais qui ne sont pas immédiatement perceptibles, et ça n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que s'ils ont d'importance, ces éléments, pour quand on fait une analyse comme on va le faire maintenant, ils ne sont pas nécessairement utiles pour la première vision du film. Simplement, ils créent dans le spectateur une impression globale qui entre en lui sans qu'il en ait forcément conscience. Vous voyez ? On le baigne dans une atmosphère sans qu'il soit forcément besoin que tout lui soit immédiatement expliqué et lui soit démontré. Mais nous, dans l'analyse, il faut qu'on le fasse. Vous voyez ? Alors, on comprend bien qu'avec ensuite l'ouverture à l'iris au noir, les années ont passé et la petite Linda qui était dans sa chaise, pour bébé, elle se trouve maintenant dans l'enfance, voire au tout début de l'adolescence. Ça, c'est un premier point. Bon. Ce qui est important, c'est regarder le premier plan. Le vert. Et ces vibrations mélodiques, il y a quand même aussi un bruit d'infrabasse qui n'est pas forcément gai, tout simplement parce que la bague va être liée au traumatisme de la mort du père, et cette bague, ça va être aussi l'élément modificateur qui va donc lancer les aventures de Linda et de sa mère. Et qu'est-ce qui apparaît à l'écran tout d'abord ?
Au fin fond de notre mémoire.
Alors, je ne dis pas qu'on est dans le Seigneur des Anneaux, mais...
Comme les étourneaux par-dessus Rome le soir. Noir comme aller au lit toute seule et sans histoire. Comme le café chaud qu'il me plaisait de boire. Toute noire est la nuit où se perd la mémoire. Et c'est là, tout au fond, que se cachent les souvenirs. C'est un monde oublié, un véritable empire. Silencieux, ils se tiennent, attendant patiemment qu'on vienne les repêcher, qu'on les rende vivants.
La parole que l'on entend, c'est celle du père mort. C'est une voix d'outre-tombe. Hein? Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si petit à petit la bague diminue et qu'on ait une sorte de bip à l'écran qui indique une sorte d'encéphalogramme plat, comme si on venait de débrancher une machine dans un hôpital sur laquelle un moribond était branché. Vous voyez ? Sauf que le père parlant, est-ce que c'est son fantôme ? Est-ce que c'est son âme ? Est-ce que c'est simplement la voix du souvenir ? Les réalisateurs ne vous le disent pas, ils ne prennent pas parti, mais ce qui est important, c'est que tout le film est fondé sur le ressouvenir. En d'autres termes, le film, il évoque un traumatisme initial, qui est la mort du père. La petite a fait une sorte de déni, c'est-à-dire qu'elle ne se souvient pas de la mort de son père et comment il est mort. Et il va falloir qu'elle se souvienne de la mort de ce père pour qu'ensuite elle puisse continuer à vivre et que sa mère puisse revivre. Donc en d'autres termes, il s'agit ici de réparer un trauma initial, si vous voulez. Sauf que c'est abordé, ce thème est abordé de manière très très subtile. Alors, ensuite, vous avez évidemment la scène de la mort du père qui est préparée par le fait que le père a confectionné un bon repas, le poulet au poivron. Pollo con pepperoni. Or, qu'est-ce que va vouloir Linda dans le film? Elle veut que sa mère lui refasse un poulet au poivron. Donc, faire ressusciter le père en même temps. Vous voyez?
Bague, on le préfère.
Bague. Et la bague, évidemment. Alors vous voyez qu'ici encore, on a une musique anempathique, c'est-à-dire complètement contraire à ce qui nous est présenté à l'écran. Au début, elle est totalement empathique, puisqu'on est dans un univers d'amour filial et parental, et tout va bien. Sauf que cette musique continue à être douce, alors que la mort fait son œuvre. Et à ce moment-là, gardant la même tonalité, elle nous met aussi, je dirais, dans une ambiance qui évite l'angoisse et le surlignage. Et ça, c'est important pour les élèves, les faire travailler sur le son et la musique. Vous voyez ? Voilà. Alors après, vous avez à nouveau les couleurs qui se mettent en place pour nous amener au monde contemporain. Et alors, ce qui est assez intéressant, pour répondre à la question qu'on se posait tout à l'heure en ouverture, c'est encore un film d'animation, mais regardez la différence. Au niveau des traits, au niveau des couleurs, au niveau des contours, on n'a plus du tout la même technique. Donc je vous expliquerai tout à l'heure en quoi consiste cette technique et pourquoi elle a été adoptée. Je vous annonce quand même un petit peu un élément de solution, c'est que ici, ce qui va compter, c'est la vivacité des mouvements. Puisque, alors que le fond du film n'est pas particulièrement gai, il s'agit de faire son deuil quand même, la tonalité, elle, va être très proche d'un film burlesque. Destiné à faire comprendre aux spectateurs que le temps a passé. Maintenant, regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans le micro-ondes. Vous voyez ? Or, la date de l'action pose problème. Vous allez voir qu'en fait, tout nous ramène aux années 60, particulièrement à 1968. Mais il y a des anachronismes. Il faudra se poser la question de savoir pourquoi. C'est un élément qu'un de vos collègues avait relevé la semaine dernière. On en a beaucoup discuté. Et je pense avoir trouvé la solution, justement, en discutant avec vos collègues. Donc, ce qui est intéressant, c'est ceci. Qu'est-ce qu'elle demande à la petite Hachi ou lasagne ? On se dit, mon Dieu, c'est formidable. Qu'est-ce qu'elle cuisine bien, la maman ? Or, on a vu au début que c'est le père qui cuisinait.
Et... c'est pareil.
Pourquoi elle dit c'est pareil ? Parce que regardez bien, ce sont des plats surgelés, tout faits. Donc déjà, on a compris que la petite a grandi, que la mère ne fait pas la cuisine, et quand on a affaire à des plats comme cela, ça signifie que la mère ne sait pas faire la cuisine, mais surtout qu'elle n'a pas le temps, qu'elle est donc prise dans ses obligations professionnelles. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qui suit.
Allez, je la reviens.
Non.
Bon, on voit les personnages de l'extérieur, un peu comme dans un tableau de Hopper ou dans la fenêtre sur cour de Hitchcock. Premier point. Bon. Deuxième point, encore par une fenêtre. Et le panoramique filet, plutôt le travelling filet, nous fait comprendre qu'on n'est pas dans une maison, puisque regardez les portions de mur qu'il y a tout autour. Donc très certainement, on est dans un immeuble. La petite est insupportable, elle insiste. Maman, va. Et là, la mère en a assez. Et tout d'un coup, maintenant, nous allons être projetés vers l'extérieur.
Mais
regardez, très léger, travelling arrière et panoramique. Droite, gauche. Et qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit qu'on est dans une barre d'immeubles, je dirais même plus dans ce qu'on appelle péjorativement une cité. Donc le statut social de la mère est un statut modeste. Vous voyez? Ça joue complètement à l'inverse de Linda, de Nausicaa. Donc on voit que ici les deux petites filles ne sont pas du même âge, elles ne sont pas de la même époque, elles ne sont même pas de la même situation sociale. Une héroïne princesse est maintenant une héroïne, je vais dire pas de manière péjorative, mais une héroïne quelconque. Et alors ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que on va avoir une description de ces cités, mais c'est une description qui n'est pas particulièrement négative, puisqu'il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de violence telle qu'on se la représente de façon un peu caricaturale. Vous savez, dans l'imaginaire, actuellement, la cité égale la drogue, la violence, les insultes, le racisme, le communautarisme, l'islamisme, enfin, tout ce que vous voulez. Et ici, absolument pas. Au contraire, on a une teinte violette. Pourquoi ? Parce que c'est le soir, on est au crépuscule, la mère veut sortir, elle va amener la petite Linda chez sa tante, pour que celle-ci la garde bien. Mais surtout, écoutez bien les dialogues. Allez, c'est pour ça que j'ai mis le sous-titre. C'est quoi comme langue ? Hein ? Oui ? Oui ? Et donc, ça veut dire bien manger. Ensuite.
Autre.
Donc, en d'autres termes, on se rend compte qu'il y a différentes communautés qui discutent ici et que manifestement il y a un mélange de populations, mais dans tout le film on va voir que ces personnes vivent en pleine communauté, vivent je dirais en pleine tranquillité. Or, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer deux choses. Premièrement, Linda est emmenée chez sa tante et la mère cherche sa bague, elle ne la retrouve pas. Elle va accuser Linda d'avoir perdu la bague. Sauf que, en fait, Linda n'est pour rien. Donc, pour se faire pardonner, la mère va dire à Linda, « Dis-moi ce que tu veux, je te fais un cadeau pour me faire pardonner. » Et Linda lui dit, « Je veux du poulet. » Comme papa en sait. Bon, alors la mère, déjà, elle va être obligée de chercher la recette du poulet au poivron. Mais deuxième problème, quand elle aura trouvé la recette du poulet au poivron, il va falloir qu'elle trouve un poulet. Or, c'est la grève générale. La société est bloquée, complètement bloquée. Tout est fermé, magasins, etc. Et ceci nous renvoie non pas aux Gilets jaunes, mais à 1968, où il y avait vraiment la grève générale. Et je dis 1968 parce que je vous prouverai qu'il y a des éléments dans le film et dans le générique de fin qui nous donnent cette époque-là. Sauf qu'en même temps, vous avez vu, il y a un four à micro-ondes. Et en 68, le four à micro-ondes n'existait pas. Donc, en d'autres termes, il y a ici ou là un anachronisme qui nous fait comprendre qu'on est un peu en 68, mais en même temps que ça pourrait se passer n'importe quand. En revanche, ce qui est important, pourquoi 68? Pourquoi cette grève de mai 68? Parce que c'est une période où la société peut complètement changer, où les espoirs sont grands, c'est-à-dire où il n'y a pas une explosion de colère comme il y a eu à la période des Gilets jaunes, il y a une explosion, je dirais, de vent de liberté. Et à ce moment-là, tout est possible, et ce vent de liberté, ce n'est pas seulement un vent de liberté sociale, mais c'est surtout le vent de la liberté pour Linda qui va faire son deuil et pour la mère qui va pouvoir refaire sa vie, en quelque sorte. Vous voyez ? Et en même temps, c'est pour nous faire comprendre que dans cette époque des années 60, où le général de Gaulle avait voulu ces barres d'immeubles qui sont absolument ignobles maintenant, mais à l'époque, c'était une volonté que tout le monde ait son logement et soit bien logé. Voyez le gône du Shahaba, l'espoir des gens qui vont vivre dans les immeubles, dans les barres d'immeubles, c'est d'être bien logé, d'avoir une salle de bain, d'avoir le chauffage central, etc. On va déchanter après. Mais à cette époque-là, ça n'est pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle cette époque de 68 nous fait plonger dans une vie en commun qui est une vie totalement tranquille, apaisée, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vous voyez ? Voilà. Tout va bien ? Bon. Alors maintenant, voyons le propos du réalisateur et de la réalisatrice. Alors, ce qui est intéressant ici, vous voyez, c'est qu'on vous donne énormément d'indications sur ce que va être le film. D'abord, il y a un choix des lignes, des couleurs, destinées à créer du mouvement. Il y a une technique tout à fait particulière qu'a créée Sébastien Rodenbach, dont je vous parlerai tout à l'heure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on vous donne la tonalité du film, c'est-à-dire un accident derrière l'autre. Or, un accident derrière l'autre, ça va nous faire penser à quelque chose, à, je dirais, un type de comique bien particulier, typique du début du siècle, du 20e siècle en France, puis aux États-Unis, parce que ce ne sont pas les Américains qui sont les pionniers, c'est Max Linder en France, c'est le burlesque, tout simplement. Une catastrophe entraîne une autre catastrophe qui fait boule de neige, et on va très très loin jusqu'à l'absurde. Ça, c'est un élément. Troisième élément pour vos élèves, intéressant, certes c'est un film d'animation, mais il y a aussi un enregistrement sonore entre guillemets réaliste. Vous avez vu qu'on fait jouer des acteurs, adultes et enfants, et on les met même dans des endroits où il y a une sorte, par exemple, de réverbération du son qu'on entend dans les extraits qu'on va étudier tout à l'heure. Donc tout ceci peut aussi vous amener à créer un atelier de création sonore avec vos élèves en leur demandant d'illustrer ou non une séquence de film que vous aurez au préalable, dont vous aurez au préalable effacé le son, si vous voulez. Vous voyez, c'est une possibilité, créer tout un travail sur le mixage, pas pour le plaisir de le faire, mais pour les amener à réfléchir sur ce qu'ils veulent faire ressortir ou sur ce qu'ils veulent effacer. Rappelez-vous tout à l'heure le début de Nausicaa, on a vu au contraire qu'il n'y avait aucun son d'ambiance pour créer cette impression de sérénité pour l'arrivée de Nausicaa. Donc tout ceci va vous amener à faire réfléchir les élèves sur la signification du son qui n'est pas seulement un effet de réel. Et vous savez, si on transposait au cinéma le son tel qu'on le perçoit, ça serait une bouillie absolument épouvantable. Donc il y a toujours une manipulation avec le mixage. Voyez ? Et puis, dernier élément aussi, c'est la thématique du film, c'est-à-dire la notion d'injustice et de réparation que l'on va donner aux enfants, que l'on doit aux enfants, quand on s'est trompé en les punissant. Donc tout vous est dit ici, hein, dans cette petite interview, avec une question subsidiaire, c'est que vous avez vu qu'ils sont deux réalisateurs, et je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais il y a de plus en plus de films qui sont réalisés à deux têtes, à quatre mains. Ce qui pose un problème que je ne vais pas trancher dans un sens ou dans l'autre. Dans certains cas, ça montre peut-être une forme de manque d'assurance, de manque de confiance en soi, ou au contraire, ça montre l'idée qu'on revient de plus en plus à un travail en équipe, parce que l'idée d'auteur telle qu'elle avait été mise en avant dans les années 60 par la nouvelle vague, me semble moins d'actualité maintenant. On pense plutôt à un travail d'équipe et je dirais que le réalisateur apparaît, ça c'est moi qui l'ai dit, plus comme, je dirais, un capitaine qui donne le cap comme un artiste solitaire, comme un auteur unique. Bon, ça c'est un autre problème, mais je vous le signale. Voilà. Bien, alors donc ce film date de 1923 et il a eu l'Oscar du meilleur film d'animation. Vous noterez qu'il y a un point d'exclamation, je ne sais pas ce qui est important, d'abord c'est le nom des acteurs. Mélinée Leclerc, c'est la petite Linda. Clotilde Haigne et Laetitia Doche, ce sont quand même deux actrices connues, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, le format de 35, c'est-à-dire le format cinémascope. Pourquoi ? Parce que ça permet de donner énormément de mouvement, dans la mesure où maintenant on peut se permettre du mouvement dans le grand écran. Ce n'était pas le cas dans les années 60. Bon, Linda a 8 ans. Elle a perdu son père, Giulio, quand elle n'avait qu'un an. Elle grandit avec sa mère, Paulette, dans une cité populaire. Linda souffre de n'avoir aucun souvenir de son père et en vient à douter de son existence. Un soir, Paulette accuse sa fille d'avoir volé sa bague, cadeau de Giulio. Linda proteste, mais face à l'intransigeance de sa mère, elle avoue ce larcin qu'elle n'a pas commis. En guise de punition, Paulette la conduit chez Astrid, sa sœur aînée, laquelle Astrid est une sœur extrêmement rigide, coincée, on dirait même, et un des éléments du film va faire qu'elle-même, cette sœur, par l'entêtement de Linda, va sortir de sa rigidité et va trouver l'amour avec un policier, Benet. Donc Linda va finalement agir sur tout son entourage et faire sortir de leur coquille des personnages qui semblaient y être enfermés une fois pour toutes. Bon. Plus tard, la mère retrouve son bijou pour se faire pardonner d'avoir injustement accusé Linda et lui promet de lui cuisiner un poulet au poivron. Mais le lendemain, c'est jour de grève générale. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, c'est le dossier du CNC qui nous donne ce synopsis. Vous savez, vous le retrouverez dans le sous-dossier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, voici les réalisateurs. Et on va entrer maintenant dans la fabrication et dans leur méthode de travail. Chiara Malta, c'est une Italienne, hein, elle est née en 77, alors que Sébastien Lohnenbach est né en 73, donc ils ont la cinquantaine à peu près. Elle vit à Paris depuis 2002 et elle a été pensionnaire à la Villa Médicis. Vous savez, la Villa Médicis, c'est une villa qui se trouve à Rome et qui donne des bourses d'études à des artistes qui ont été repérés. Donc, en d'autres termes, c'est quelqu'un qui, dès ses débuts, a été reconnu comme ayant du talent. Et elle crée beaucoup de courts-métrages dans lesquels elle mêle animation et prise de vue réelle. Dans Simple Woman, c'est un film qui est à mi-chemin entre la fiction et le documentaire, puisqu'elle montre la recherche d'une star par quelqu'un qui veut l'interviewer. Et la star se présente nettement moins, sous un jour nettement moins positif que ce qu'on pouvait penser. Donc on est un peu ici à la limite du documentaire et de la fiction. Alors que Sébastien Lohnenbach, lui, il a créé de l'animation essentiellement, c'est-à-dire un ancien élève d'école d'art décoratif de Paris, et c'est un professeur d'animation. Donc il a fait un premier film qui s'appelle « La jeune fille sans miroir », et il fait beaucoup de génériques de films, en particulier ceux d'Emmanuel Mouret. Il fait des affiches de films, et il est un des membres, ça c'est ce qui est intéressant, fondateur de l'Ouanipo. C'est en référence à l'Oulipo. Vous connaissez l'Oulipo, pour ceux d'entre vous qui sont professeurs de lettres. L'Oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle. En d'autres termes, une communauté d'écrivains, d'enseignants, d'artistes qui réfléchissent à toutes les possibilités du langage, par exemple, la création de textes par l'association d'idées ou l'association de mots, ou la création de textes qui refusent l'utilisation de toutes les voyelles, de certaines voyelles, par exemple. Donc, ce sont des recherches expérimentales souvent assez amusantes, proches de l'absurde et proches du surréalisme, parfois. Eh bien, Sébastien Lohnenbach, lui, il est un des fondateurs de l'Ouanipo, l'ouvroir d'animation potentielle. Et ça, il va créer ce qu'il appelle la cryptokinographie. Alors voici d'abord une affiche de La jeune fille sans main, un de ses courts-métrages qui a eu beaucoup de succès. Il est superbe hein, d'ailleurs, quoi. Elle est superbe cette affiche. Hein. Franchement, on se croirait dans une œuvre impressionniste d'ailleurs. Et voici ce que c'est que la cryptokinographie. Alors la cryptokinographie, c'est un style graphique assez particulier, en ce sens que on va créer des dessins qui vont être fondés essentiellement sur la rapidité et sur l'ellipse. Comme on le disait tout à l'heure, tantôt il y a des traits, tantôt il n'y en a pas. Et on va utiliser systématiquement des couleurs franches et un personnage va avoir une couleur. On vient d'y venir tout à l'heure. Donc la cryptokinographie, ben, crypto ça veut dire caché, et kino mouvement, graphie écriture. Donc en d'autres termes, écriture cachée dans le mouvement. Procédé d'exécution au tracé sommaire. Et ce qui est important, c'est que ce tracé va permettre des images très très rapides. Si vous vous souvenez le début du film, vous avez vu combien la caméra va très très vite quand on voit la mère mettre puis sortir la nourriture du four à micro-ondes. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on veut une vivacité du trait et une force, une sorte d'énergie. Or, c'est ce qui anime le burlesque, l'énergie, et c'est ce qui va animer particulièrement Linda et les catastrophes qu'elle va entraîner derrière elle avant la résolution finale. Bon, donc cette technique créatrice passe par des dessins à la limite de l'esquisse ou de l'abstraction, comme si celui-ci n'existait que dans le fugace, n'était visible que dans l'inachevé. Voilà. Alors, il faut voir que chaque personnage a une couleur, ce qui va permettre, dans la mesure où l'image va très très vite, de repérer le personnage très rapidement dans le plan. C'est un moyen de suivre en particulier Linda, qui est toute jaune. Alors ça va être intéressant de voir pourquoi Linda est jaune. Bon, regardez la maman. La maman, elle est orange. Vous voyez ? Linda est jaune. Pourquoi ? Parce que Linda, c'est la lumière. Linda, c'est une lumière. C'est la force lumineuse du film. Et sa mère est orange parce qu'avec le deuil, avec les soucis du quotidien, elle a perdu cet éclat que Linda a. Donc, il y a à la fois une communauté de couleurs, Elles sont toutes dans des couleurs positives, mais Linda a en plus, par rapport à sa mère, la lumière. Vous voyez l'idée ? Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose tout de suite la question, quand elles sont face à face et que des fois leurs couleurs se rejoignent, est-ce que Linda est pénible ? Parce qu'elle est très pénible, elle râle sans arrêt, elle insiste sans arrêt pour que sa mère lui prête sa bague. Mais en fait, ce caprice de petite fille qui demande la bague de sa mère, en fait, c'est plus que ça, c'est que la bague est liée au souvenir de la mort du père. Et quand elle demande la bague, elle veut revenir inconsciemment à ce moment et inconsciemment, elle demande la guérison. Vous voyez ? C'est pas seulement un caprice de la petite fille qui veut ressembler à sa mère. Bon. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ces couleurs vont nous amener à mettre en valeur, évidemment, un autre point, c'est l'émeraude, la couleur de la bague. Et cette bague, elle a le témoignage de pas mal de choses. Elle est témoignage, d'une part, de l'amour que Paulette, la mère, portait à son mari. C'est la fascination de la petite fille, comme toute petite fille est fascinée par les bijoux de sa mère. Mais c'est aussi la source du malentendu, puisque la mère va accuser Linda d'avoir perdu la bague, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est l'élément modificateur qui va provoquer la rupture de l'équilibre. Et c'est évidemment le lien qui unit non seulement Paulette à son mari, mais c'est aussi le lien qui unit Linda à son père, et donc le lien qui unit Linda à sa mère. En d'autres termes, une forme de triangulation est opérée, si vous voulez. Et à ce moment-là, cette bague aussi va permettre plus tard de relancer la vie de Paulette qui va trouver un nouvel amour. Mais attention, ça ne va pas être un super méga beau gosse, ça va être un homme tout à fait ordinaire, puisque ici on est dans l'héroïsme du quotidien. Alors, que signifie la recette au poivron ? Ben, vous l'avez compris, c'est retrouver le bonheur d'avant, le bonheur quand le père était encore là. Alors, le fait que Linda râle sans arrêt et veuille absolument avoir le poulet au poivron, ça va lancer la mère sur la recherche du poulet. Et alors, on va se poser une question qui est assez drôle. C'est que, comme la grève générale est partout présente, les magasins sont fermés, donc il faut trouver un poulet. Où est-ce qu'on va le trouver ? Alors la mère dit à la petite, écoute, demain, quand la grève se finit, ah non, tu m'as promis, tu me le dois, c'est aujourd'hui. Donc il faut trouver le poulet. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va dans une ferme pour essayer d'acheter le poulet. Mais les parents, les fermiers sont partis à la manif. Et il n'y a plus que le fils qui est là, qui est un hippie qui joue de la guitare et qui ne connaît rien du tout au poulet. Il refuse de vendre les poulets. Puis il n'est pas question pour lui de tuer un poulet. Alors donc, en d'autres termes, qui d'entre vous dans la salle est capable de tuer un poulet ? Bon, pour un paysan, ça coule de source, mais il va falloir trouver quelqu'un pour tuer le poulet. Et c'est de là que vont venir les catastrophes, parce que dans un premier temps, la mère va voler un poulet, et dans un deuxième temps, il va falloir le tuer, le poulet, le trucider, comme dirait Linda. Mais qui va trucider le poulet ? Vaste problème. Bon, et donc, cela va entraîner toutes sortes de rencontres. Et ce qui est intéressant, c'est que regardez à côté de Paulette, à gauche, vous avez le policier Benet qui va courir après Paulette parce qu'elle a volé le poulet. Et à droite, vous avez le chauffeur de camion qui va, je dirais, tout d'un coup avoir un coup de foudre pour Paulette, pour le coup de foudre qui va être réciproque. Mais honnêtement, il y a mieux comme beau gosse, hein, franchement. Non, me semble. Hein. Ça laisse de l'espoir à tout le monde. Et on va arriver à des situations totalement absurdes, puisque Paulette ayant eu les menottes passées par le policier, et le policier ayant jeté les clés, il va falloir trouver un poste à souder, ou plutôt un poste à souder pour pouvoir libérer Paulette. Donc on va juste vers véritablement du n'importe quoi, si vous voulez. Et regardez ici, encore plus d'absurde, le policier qui braque son pistolet, non pas pour arrêter un malfaiteur, mais pour essayer de trucider le poulet. Et évidemment, il va le manquer parce qu'il ne s'est pas tiré. Vous voyez, on est totalement dans l'esprit du burlesque. Vous voyez, on est totalement à l'encontre aussi de ce qu'on a dans nos cas. Alors, donc, ceci m'amène à voir avec vous les différents types de comiques, parce qu'on va reprendre des scènes, justement, où le comique va avoir lieu. Vous connaissez tous cela, le comique de situation, le comique de mots, de gestes, de caractères, de mœurs, de répétition. L'un dominant dans un film ou dans une pièce, ou non. Par exemple, vous savez que On a surtout les comiques de situation, les comiques de gestes, voire de mots dans, je pense à la pièce de Molière, Les Fourberies de Scapin, mais qu'allait-il faire dans cette galère? Et au contraire, vous avez un comique plus fin, plus subtil, dans Le Misanthrope ou dans Don Juan. Vous voyez? Ce qui fait d'ailleurs différencier les pièces de Molière entre grandes pièces et pièces, je dirais, plus proches de la farce. Bon, c'est une distinction qui n'est pas toujours, je dirais, valable. Mais dans le burlesque, vous avez tous ces éléments-là, les uns entassés avec les autres. Bon. Et le burlesque, donc petit rappel, ça je vous l'avais déjà expliqué dans les années antérieures, mais j'y reviens, ça vient du latin burla, qui veut dire plaisanterie. C'est un comique exagéré, qui va jusqu'à l'absurde. C'est pour ça d'ailleurs que les surréalistes l'aimaient énormément, parce que cet esprit complètement fou du burlesque correspondait aux expérimentations des surréalistes, en particulier Robert Desnos, et d'un autre côté chez Dali aussi. Hein. Bon, donc le burlesque consiste à caricaturer les situations, à faire des dieux, avec des humains, d'animaliser des hommes, d'humaniser des dieux, enfin bon, les situations les plus grossières peuvent être évoquées de manière totalement mécanique. Voyez le livre de Bergson sur la question. Donc le burlesque, caricaturer des situations. Le gag, c'est une histoire drôle, c'est donc une petite jeu de scène fondé sur les mots ou plus précisément sur les gestes. Et quand le gag se répète, on a le running gag. Ben ça, le running gag, ça, vous allez l'avoir sans arrêt dans Linda. Quant aux statistiques, le coup de bâton, c'est une succession rapide de gags visuels, de performances physiques, voire une certaine violence, de la poursuite, des situations absurdes. Et à ce moment-là, vous comprenez que le choix esthétique de Sébastien Laudenbach trouve totalement son écho dans ce procédé du burlesque. Et d'une manière générale, donc, c'est une forme cinématographique, je n'ai pas dit un genre, hein, j'ai dit une forme, une vision du monde. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que le burlesque, c'est un genre qui transgresse tout. Mais il transgresse quoi? Ben, il transgresse les bonnes mœurs, c'est souvent provocateur, avec des plaisanteries de l'ordre du scatologique, voyez chez Rabelais. Vous l'avez chez Chaplin, vous savez, chez Chaplin, dans le personnage de Charlot, vous avez le haut du corps qui est noble, il a le maintien aristocratique, il a des gants, il a le chapeau de haute forme, il a la cravate, il essaie de se tenir bien avec sa canne, mais le pantalon, lui, au contraire, est percé, il se gratte souvent vulgairement les fesses, il a des godillots qui lui permettent d'ailleurs de botter les fesses des policiers, et donc on a une opposition entre le haut, aristocratique, noblesse de cœur, et le bas, qui montre les instincts aussi bien de la digestion que, les pulsions sexuelles ou la défécation. Et ça, c'est le propre du burlesque. Vous voyez? Bon. Donc, on transgresse les conduites sociales, et c'est la raison pour laquelle, dans le burlesque, vous avez toujours le personnage du cop, du flic, parce que le flic, il représente la société et les règles de la société et les règles morales d'une façon générale. Donc, c'est un personnage du burlesque, le cop, qui fait partie prenante, je dirais, des ressorts comiques. Puis, vous avez évidemment une transgression de toutes les règles, voire des règles naturelles de Newton. En le seul burlesque qui permet de casser complètement ces lois de Newton, c'est le dessin animé de Tex Avery. Parce que là, on peut aller n'importe où, dans n'importe quel sens de l'écran, on peut sortir de l'image, on peut mourir, ressusciter sans problème. Vous voyez, mourir X fois comme les chats, revenir à la vie, ça c'est l'exagération qu'on ne peut pas avoir avec un acteur, sauf maintenant avec les images de synthèse, mais sinon, jusqu'à il y a une dizaine d'années, le seul moyen c'était de passer par l'animation. Donc, finalement, le personnage récurrent, le policier, l'ordre social, l'ordre moral, mais pas seulement. Alors, il y a aussi à côté de cela, les 68 dont je vous parlais, vous connaissez cette image, vous voyez qui c'est? C'est Daniel Cohn-Bendit. Et donc Daniel Cohn-Bendit, ici, est en train de narguer un policier. Et cette image de Gilles Caron a tellement fait le tour du monde qu'elle est même devenue la page de couverture de Télérama quand on a fêté, entre guillemets, les 40 ans de mai 68. Vous voyez? Or, ce qui est intéressant, c'est que si je vous montre cette image-là, on a toujours cette vision du policier, ici réprobateur, là impassible, face à quelqu'un qui brave l'autorité, en quelque sorte. Hein, voilà. Or, le thème fondamental de Linda, c'est la libération. La libération au sens social, puisque les gens veulent un meilleur sort, mais surtout parce que la contestation sociale n'est pas vraiment présente dans Linda. C'est une libération des complexes, des préjugés, et surtout une libération du deuil. En fait, c'est une libération de la vie que l'on demande dans Linda. Alors, c'est pour ça, quand je vous parlais de 68, c'est que je vous ai fait ici deux captures d'écran, et j'ai trouvé dans le générique de fin, titre de l'émission Interactualité de 2000, et généralisation de la grève à l'ensemble de la France. Or, ça, c'est un ce sont des termes qu'on entend dans le film Linda veut du poulet. C'est une émission de radio qui diffuse cela. Donc c'est un clin d'œil direct à mai 68 que vous avez là. Même si, encore une fois, on peut extrapoler, c'est-à-dire appliquer cette situation à, je dirais, une époque indéterminée, bien sûr. Donc il y a aussi dans le film, pour bien ancrer quand même Linda, les hirondelles, c'est-à-dire les policiers avec ces pèlerines qui ont fait qu'on les a véritablement surnommés les hirondelles, et les hirondelles ont disparu en 1984. Alors, je me suis aperçu, j'étais très étonné, que les policiers payaient eux-mêmes leurs bicyclettes à cette époque-là, mais qu'ils avaient simplement une dotation qui leur permettait d'acheter, mais ils choisissaient leur marque et leur équipement de bicyclette. Je vous le signale, ça c'était autrefois. Hein, voilà. Bon. Et moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que quand j'ai vu le physique du camionneur que va rencontrer Paulette, regardez-le, il m'a fait penser à... Regardez-le, voilà, vous voyez ? J'ai quand même, il me fait penser à quelqu'un, et je suis arrivé à ceci, par association d'idées. Alors, peut-être me trompais-je, mais quand même, Bernard Billet, hein ? Il y a quelque chose quand même, hein ? Il y a vraiment quelque chose. Alors, tout ceci pour vous montrer que le film fait référence aussi à des personnages typiques des films des années 60, 50, 60. Vous avez Jean Gabin qui joue dans Gasoil, le film de Gilles Grangier des années 50. Mais, allez, petite cote, j'ai fait exprès, je ne vous ai pas mis les références de l'image de gauche, sachant que je l'ai coupé l'image en plus. Hein, c'est un photogramme que j'ai coupé. Donc, quel est l'acteur qui est à côté de Bernard Billet ? Lino Ventura. Alors, quel est le film où tous les deux jouent un camionneur, des camionneurs ? Bon. Est-ce que vous avez vu Sirat cette année, le film qui a été présenté au Festival de Cannes ? Il y en a qui l'ont vu ? Oui. Eh bien, Sirat fait référence de façon tragique à, entre autres, au salaire de la peur, mais aussi à ce film-là. C'est 100 000 dollars au soleil d'Henri Verneuil. Il y a aussi Jean-Paul Belmondo dedans. Énorme succès en 63, mais énorme. Hein. Ici, je pense que l'image du camionneur provient directement de cette image de Bernard Billet de 100 000 dollars au soleil, puis d'autres personnages qu'il a pu incarner. Bon. Alors, tout ceci fait que le film Linda veut du poulet a un graphisme particulier. Elle a une époque à peu près fixée en 68. Il a un thème, qui est le deuil et la libération d'une façon générale. Thème de la libération de la société, libération de tous les complexes, puisque la sœur est coincée, le flic est benêt, mais finalement ils vont trouver l'amour. Paulette va revivre. Et il y a aussi un gros travail sur toutes sortes d'éléments cinématographiques, comme vous situez ici. Mais ce qui est intéressant pour moi aussi, c'est le travail sur les rapports picturaux. Et ce que dit le CNC, c'est qu'il y aurait des rapports à faire avec les peintres fauves, en particulier avec Raoul Dufy. Et effectivement, quand on regarde la conception des décors du film, on s'aperçoit qu'au niveau de la répartition des couleurs, qui sont franches et en même temps peu agressives, on peut avoir ici vraiment, je dirais, une source d'inspiration quasi certaine à montrer. Alors, je ne dis pas qu'un tableau, c'est la même chose qu'un film d'animation. C'est une erreur de croire qu'on peut établir des ponts très faciles. Il y a des sources communes, il y a des dialogues communs, mais jamais un tableau ne sera un tableau animé. Chaque fois qu'on... Ce sont deux formes d'expression différentes. Dans un cas, on est dans l'image fixe, et dans l'autre, on est dans une image qui bouge. Et ça, c'est fondamentalement important à souligner à vos élèves. On ne peut pas dire qu'on a un tableau animé ici. Donc, le vrai problème qui va se poser ensuite, mais c'est qui va trucider le poulet. Et alors, ça nous fait penser tout de suite à Jacques Tati, parce que Jacques Tati, en particulier dans Mon Oncle, et puis dans un de vos collègues la semaine dernière l'a fait remarquer dans Jour de fête, eh ben Jacques Tati, il montre le changement de société, on passe à une société urbaine, mais maintenant plus personne ne saurait trucider un poulet. Puis un problème qui va se poser, c'est Linda, elle court après son poulet, elle l'attrape, et plusieurs fois, elle le serre fortement contre elle. On se dit, elle va en faire un doudou, hein, elle va en faire sa mascotte. Eh bien non, on va le trucider de poulet quand même. Hein. Sauf qu'on ne vous le montrera pas. Et ce qui va être très curieux, c'est qu'à la fin du film, toute la communauté des barres d'immeubles va partager le poulet. Donc on va y avoir une véritable multiplication des cuisses de poulet comme on a la multiplication des pains. En fait, vous comprenez que c'est ici une façon de montrer la communion dans la communauté, en quelque sorte. Voilà. Alors, donc, finalement, pourquoi mai 68? Parce que c'est un point de bascule, un moment où tout est possible. La grève générale provoque le blocage de toute la société, mais en même temps, c'est une époque où toutes les communautés vivent ensemble, et le partage final du poulet montre cet échange. Donc, est-ce qu'il y a un regret de cette période dans le film? Moi, j'en suis pas sûr du tout. Hein. Absolument pas. Simplement, c'est un appel finalement au partage et à la bonté. Et l'entêtement de Linda, c'est ça qui est intéressant, fait que ce qui peut sembler un caprice de petite fille, puis une volonté de dominer sa mère, devient en fait la marque de deux choses. Une volonté tendue pour aller jusqu'au bout, et cette volonté tendue pour aller jusqu'au bout donne des ailes à tout le monde et va créer, dans un premier temps, des catastrophes, dans un deuxième temps, une réunion, un partage, et à ce moment-là, Linda, c'est bel et bien une enfant porteuse de lumière, et c'est une enfant qui va porter autour d'elle, le partage. Et donc, on peut être une héroïne du quotidien. En fait, Nausicaa et Linda font exactement la même chose. Elles apportent autour d'elles, je dirais, l'espoir et la réunion. Elles apportent la paix et une forme de communion. Sauf que l'une est une héroïne au sens où on l'entend traditionnellement, et l'autre est une héroïne du quotidien. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez montrer à vos élèves que chacun d'entre eux peut être un héros, une héroïne du quotidien. Et ça, c'est important dans le monde où nous vivons, où franchement, on a envie de taper sur son voisin plus qu'autre chose, où on a envie de se suicider. Enfin, on ne croit plus du tout à l'autre. On a toujours tendance à se méfier de l'autre, et à le voir comme un agresseur potentiel, voire on a tendance à se montrer agressif vis-à-vis de lui. Et si on peut montrer autre chose aux élèves, moi je pense que c'est vraiment important, vraiment. Et ça, je pense que les films qui ont été choisis sont fondamentaux, puisque à travers le divertissement, ils nous montrent autre chose. C'est intéressant, je pense. Je ne sais pas si ça a été voulu comme ça, mais en tous les cas, c'est réussi, me semble-t-il. Hein? Bon. Alors, donc, le thème central à côté, évidemment, c'est la mémoire, le souvenir, enfin. Et ce souvenir va être projeté pour Linda grâce à la boîte à souvenirs qui est le cinéma. Je regarde l'heure, on a le temps. Donc, je vais vous montrer deux extraits. Ça va être, d'une part, l'aspect burlesque et d'autre part, la boîte aux souvenirs grâce au cinéma. Et une fois que le souvenir apparaît à la mémoire, à ce moment-là, la guérison est possible. Vous savez, c'est un peu de la psychanalyse. Vous n'avez qu'à voir... ce thème est abordé par Hitchcock dans Pas de printemps pour Marnie. Tant que Marnie n'a pas revécu son traumatisme, elle ne peut pas aller de l'avant. À partir du moment où elle le vit, eh bien, les choses peuvent entrer en guérison. Voyez. Si dans cette séquence, on joue sur tous les rythmes possibles qu'on peut avoir dans un film traditionnel, à savoir un début de séquence extrêmement agité, avec une utilisation du son qu'on appelle l'effet clip. Vous connaissez l'effet clip? C'est le fait qu'on organise les images, on organise le montage en fonction de la musique. C'est-à-dire que traditionnellement, au cinéma, ce sont les images qui commandent et la musique obéit. Ici, les images semblent obéir à la musique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la partition de Rossini prend de l'ampleur, vous avez une accélération de la vitesse et une multiplication des plans, jusqu'au moment où le poids lourd s'arrête, et à ce moment-là, on arrive à retour prégnant des sons traditionnels et à un rythme plus court. Bon, premier point. Deuxième point, vous avez peut-être remarqué que ici, la technique de Sébastien Lautenbach s'explique complètement puisque l'ellipse des traits, la simplification, la schématisation des traits permet d'accélérer la rapidité de la séquence. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le montage et dans la succession des plans, mais on est aussi dans la création de ce qui donne l'illusion du mouvement, c'est-à-dire le trait. Voyez ? Troisième élément, ce qui est intéressant, c'est la couleur. On a parlé de la couleur de Linda et de sa mère, mais regardez la couleur du policier et du camionneur. Vous avez vu que le camionneur est dans le violet et le policier est dans le bleu pâle, tout simplement parce qu'ils font contraste avec Linda et sa mère, mais en même temps, il y en a un qui a un caractère plus affirmé que l'autre, puisque le policier est vraiment en formation, c'est un policier stagiaire, et on voit que c'est un gamin, c'est un bébé, il est un peu benêt, et donc la couleur est beaucoup plus pastel pour lui que pour le camionneur qui est quand même un homme d'âge mûr. Vous voyez ? Bon. À cela, vous ajoutez une manière de décrire le personnage du camionneur. On voit que c'est un mélomane puisqu'il écoute de Rossini. Mais en même temps, il est pris d'une allergie exactement comme Pierre Richard dans quel film qu'il était allergique, Pierre Richard ? C'était face à Depardieu, c'était dans la chèvre. Mais ici, ce qu'elle guérit immédiatement, c'est l'apparition de Paulette. Vous noterez que Paulette est très jolie, mais elle est très légèrement en chair aussi. Elle n'est pas idéalisée comme une pin-up. C'est une belle femme, mais elle n'est pas dans les canons de la beauté traditionnelle, et le camionneur ne l'est pas non plus. Sauf qu'il est poète, puisqu'il fait des alexandrins, vous avez vu. Et en plus, ce sont des alexandrins qu'il arrive à sortir immédiatement, puisqu'ils sont de son cru, ce ne sont pas des citations que ces alexandrins. Donc, on est totalement dans un mélange de burlesque et de poésie. C'est un petit peu aussi une référence à ce qu'on appelait le réalisme poétique des années 30-40 avec Prévert et Carnet. Vous voyez, il y a tout cet univers filmique derrière qui est important à noter ici. Et avec, finalement, quand même l'idée, c'est que il y a, derrière le poulet, il y a le deuil du père qui revient sans arrêt comme un leitmotiv. Donc il faudrait que j'analyse tout en détail, mais je n'ai pas le temps, il faut que je montre un dernier extrait avant qu'on aille manger. Hein. Vous allez avoir maintenant la manière que les réalisateurs ont choisi pour faire comprendre à Linda ce qui s'était passé et par voie de conséquence, faire comprendre que maintenant on peut passer à autre chose. C'est très important. Donc, je vous ai mis là encore les sous-titres parce qu'il faut que vous voyez tout ce qui va ressortir. Et vous allez voir que, finalement, le souvenir est apparenté au cinéma. Et le cinéma est une machine à souvenirs. En d'autres termes, ici, il y a un peu de ce qu'on appelle pompeusement de la métadiscursivité. Donc, une lecture du cinéma sur lui-même. Le personnage du père apparaît ici comme un magicien. C'est Mandrake. Et en même temps, il ressemble étrangement à Marcello Mastroianni. Donc, dans l'imaginaire de la petite, le père est à la fois l'image même de la beauté et l'image même du magicien, avec sa recette. Vous voyez toute l'idéalisation qui va avec. C'est qu'il y a une inondation chez Linda, l'eau qui coule du plafond crée la réminiscence tout d'un coup. Cette réminiscence est évoquée par une technique qui évoque elle-même le cinéma des origines, c'est-à-dire la lanterne magique, d'une part, d'autre part les animations très simples, répétitives, comme on avait avec le phénakitiscope. Ensuite, vous avez une technique qui peut faire penser, au contraire, à une technique expérimentale, c'est-à-dire on prend une pellicule et on gratte dessus des traits, si bien que quand on projette, il y a un fond noir et simplement des traits qui créent le mouvement. Il y a un film que je vous conseille, c'est Blinkity Blank, que vous pouvez trouver sur Internet. Et puis, vous avez ensuite la caméra qui se met en route et qui projette avec le système finalement plus ou moins archaïque des flares de lumière. Et donc, vous avez l'assimilation de la mémoire à une caméra qui enregistre puis qui projette. Et à partir du moment où la caméra se met à projeter, à ce moment-là, la réminiscence peut avoir lieu et le ressouvenir déboucher sur la guérison. Donc en gros, c'est ça la thématique, avec évidemment un rapport, je dirais, au réel, qui est à la fois enjolivé, le père est un magicien, et trivial, il est mort étouffé par un os de poulet. Il y a mieux comme mort, surtout sans avoir pu boire son café et son verre de champagne. Mais, vous voyez, ce mélange de tragique, de quotidien et d'idéalisation, c'est un petit peu, je dirais, l'originalité de cette façon de mettre en place la mémoire. Et puis, il y a quand même un énorme travail de réflexion graphique avec des fois des allusions au spectacle de marionnettes ou à certains éléments du film noir et du film dit expressionniste. Voilà, en quelques éléments de réflexion. Oui. Alors, comme on l'a vu ce matin, Linda est un personnage plein de lumière, un personnage lumineux, ce qui apparaît d'ailleurs dans les images qu'il y a ici. Et en particulier, ce qui est intéressant sur ce photogramme, vous voyez, c'est qu'à la fin du film, on se trouve dans la barre d'immeuble où habitent Linda et sa mère, et pour des situations que vous verrez, pour des raisons que vous verrez, se trouve dans l'arbre la sœur de Paulette, donc la sœur de la maman, qui a un caractère insupportable, et le jeune policier un peu benêt que nous avons vu ce matin dans la course-poursuite. Et une histoire d'amour va se nouer entre les deux. Mais à un moment donné, comme le poulet avait aussi trouvé refuge dans l'arbre avant qu'on ne le trucide, parce qu'on le trucide bel et bien, les gamins présents ont jeté toutes sortes de choses dans l'arbre pour faire descendre le poulet, et en particulier toutes sortes de vêtements se trouvent accrochés aux arbres. Et de ce fait, cet arbre, élément tout à fait naturel, devient un véritable mat de cocagne, ou tout au moins un arbre de Noël. Et ça correspond à l'ambiance finale. Et ce qui est important surtout, évidemment, c'est que la communauté entre la mère et la fille va se retrouver pleinement effectuée. Et si vous regardez bien l'image de la mère ici, elle est doublement intéressante. D'abord, elle s'est légèrement amincie, elle a retrouvé sa taille de jeune fille. Et d'autre part, elle est aussi lumineuse que sa fille. Vous voyez ? Voilà. Donc, ceci nous amène, enfin presque, c'est vrai, pas tout à fait, mais presque, ce qui nous amène au sens global du film. On a vu déjà beaucoup de choses, c'est juste pour mettre un point final. Donc, une recherche esthétique, un graphisme épuré, on l'a vu avec cette crypto-kinographie. Ensuite, un ancrage dans une époque révolue, à un moment où la société bascule, mais une époque révolue, pas totalement déterminée, puisqu'il y a quelques anachronismes. On a vu le four à micro-ondes, mais il y a aussi le téléphone portable du jeune policier qui se fait écraser par la voiture qui le suit. Bon, un peu de nostalgie, point d'interrogation, je n'en suis pas sûr. Un peu de réalisme social, un peu de réalisme poétique, peut-être, avec les difficultés de la famille monoparentale, la tonalité burlesque avec l'effet boule de neige et catastrophe, et des valeurs, ce sur quoi d'ailleurs doit déboucher le film, donc l'amour mère-fille, l'amour tout court, la solidarité, la fraternité et l'exaltation de la vie en commun. Donc, comme pour, je dirais, faire un écho à Nausicaa, de l'héroïsme, mais de l'héroïsme du quotidien, c'est ce qu'on a dit ce matin en fin de matinée, avec une forme de contagion au sens positif du terme de la bonté et une libération des contraintes, du deuil, donc un film optimiste. Ce qui, finalement, nous amène à nous poser la question de savoir quel type d'héroïne est Linda. Donc, une enfant normale, tension avec sa mère, souffrance rentrée, caprice, etc. Une enfant qui éprouve le traumatisme de la mort du père, bien sûr. Une enfant qui doit apprendre à faire son deuil. Mais en ce moment, grâce à son entêtement, au fait qu'elle ne dévie pas de son idée fixe, elle retrouve la joie, petit a. Petit B, elle redonne la joie à sa mère. Petit C, elle communique la joie autour d'elle, directement à la cité, indirectement à sa tante et au policier novice. Donc, elle répond au code traditionnel du récit initiatique traditionnel. Elle progresse pour elle-même, elle fait progresser les autres. Sa quête, c'est pour elle-même, mais en même temps, c'est une quête pour les autres et réciproquement. Donc, finalement, c'est ça qui est le plus important pour moi, j'insiste encore une fois dessus, tout enfant peut être un héros. Alors avant de vous donner quelques pistes pédagogiques, un peu de lecture. Bon, c'est un ouvrage que je vous ai signalé ce matin, le cinéma d'animation. Donc je l'ai remis ici. Mais il y a aussi deux ouvrages. L'un de 2023 que j'avais déjà signalé dans des formations antérieures, 100 ans de cinéma d'animation, avec évidemment Shaun le Mouton en première page et Cléricou. Et en 2024, toujours par le même auteur, Peter Lord, toujours aux mêmes éditions, Duno, technique du cinéma d'animation. Et ça, il m'a semblé intéressant de vous le rapporter, parce que vous avez vu que les techniques utilisées par Miyazaki ne sont pas du tout les techniques utilisées par Sébastien Laudenbach et Chiara Malta, même s'il y a des points de contact. Voilà. Bon, donc, les pistes pédagogiques, évidemment, comme toujours, la structure du récit, les rebondissements essentiels, l'accumulation et l'absurde, c'est-à-dire que les rebondissements ne sont pas seulement des successions d'épisodes, mais encore une fois, un effet boule de neige qu'ils produisent. Ensuite, le milieu social des personnages. Pourquoi pas faire une petite mise au point sur les événements de mai 68 en insistant bien sur le fait que tout n'est pas chronologiquement juste dans ces événements. D'ailleurs, ils ne sont évoqués que de façon très, je dirais, à la marge. Il n'est pas question du tout des étudiants, il n'est pas question des ouvriers, il n'est pas question du général de Gaulle, il n'est pas question des pavés et de la plage sous les pavés, c'est juste une grève générale. Bon. Ensuite, le rôle de Linda, de son caractère. Éventuellement, vous pouvez demander à vos élèves de faire une fiche sur les personnages secondaires, le policier, la tante, le chauffeur. Étudier les couleurs du film et des impressions, l'étude de la cryptokinographie. Voilà. Et puis, il y a à la fin du film une chanson. Il y a trois chansons dans le film, chantées par les acteurs au milieu du film, mais à la fin, c'est Juliette Armanet. Et donc, je n'ai pas le temps, mais je vous l'ai mis sous forme d'extrait, sous forme de karaoké. Donc, il sera intéressant d'écouter la chanson de Juliette Armanet, encore une fois, pour commenter le film lui-même. Et d'une façon générale, la conclusion du film, avec la notion de bonheur retrouvé, de communauté, d'optimisme, et d'une manière générale, de confiance en la vie. Voilà ce que je voulais vous signaler. Bon, donc, oui, Linda est quand même un personnage lumineux. D'ailleurs, la silhouette est très intéressante à étudier, c'est qu'elle vous regarde droit dans les yeux, elle sait ce qu'elle veut, elle a les mains dans les poches, elle est décidée, elle est bien droite et le dos redressé, donc elle fait face à tout, mais par sa couleur et par son sourire, elle a plus l'aspect gentil que l'aspect méchant, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement ressortir avec vos élèves, et tout le reste apparaît comme une sorte de, je dirais, de fête, littéralement.